Quand on met ça dans la main de professionnels du M&A, c'est un peu comme quand on donne une loupe à Sherlock Holmes. On n'a pas changé Sherlock Holmes, mais on a changé la qualité du travail qu'il est capable de le faire.
Comment tu vois un acteur comme Indy arriver sur le marché dans l'expertise comptable? En gros, ça te met un coup de pied au derrière, quoi. Et donc, tu travailles plus pour apporter plus de valeur aux clients, point à la ligne.
C'était une comptabilité dont l'un des libellés d'écriture était « ne pas communiquer en cas de contrôle fiscal
». C'est vraiment génial, quoi.
Ce qui a le mérite d'être clair.
Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor PennyLane. PennyLane, outil de gestion tout en un, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Je l'utilise à titre perso pour 3 sociétés. Et pour les 3 sociétés, dorénavant, j'ai des situations mensuelles à J+5 et la clôture du bilan 2023 est arrivée au bout de 15 jours. Ça facilite la vie de l'entrepreneur. Pas besoin de se prendre la tête avec la gestion des achats, avec la transmission des factures, avec le compte bancaire. Et pour l'expert comptable et le cabinet, ça facilite l'automatisation de la comptabilité, le dossier de révision, la réalisation des TVA et des liasses fiscales. Franchement, PennyLane, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller directement en description de cet épisode pour à la fois tester la solution, si vous êtes un cabinet, et puis si vous êtes entrepreneur, vous avez un code promo qui s'appelle Geek PennyLane, que je vous mets en description ici. Un mois gratuit offert. Sur ce, allez-y, profitez-en, cet outil, il est incroyable. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle masterclass et une petite découverte que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui avec mon invité du jour qui s'appelle Jean-Marc Allouet. Salut Jean-Marc, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien Nicolas. Je sais que tu n'es pas en super forme aujourd'hui, donc je te souhaite bon courage pour l'émission. En tout cas, je vois beaucoup de détermination.
Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai, pour la petite anecdote, c'est que normalement, je compile tous mes podcasts sur 2 ou 3 jours par mois. Et donc là, j'en avais 8 de prévus, dont 6 en présentiel. Et donc, j'ai été obligé de les annuler parce que j'ai le Covid. Et donc là, je suis à distance avec toi. Donc, je donne tout ce qu'il faut. Alors, donc, pour te présenter, mon cher Jean-Marc, donc toi, tu es un fondateur, un CEO de Geoficiency, qui est une solution qui va faire du contrôle et de l'investigation comptable. On va creuser ce sujet-là parce que les outils technologiques sont très importants dans l'écosystème comptable et financier vu ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a certainement des missions complémentaires à aller chercher pour certains cabinets. Mais aussi, il y a de la réglementation à respecter aussi dans cette industrie qui est le chiffre, et que ce soit pour les entreprises et les cabinets. Mais donc, pour vous êtes une 20aine de personnes, vous faites un chiffre d'affaires de x2, en tout cas sur les 2 derniers exercices. Et le prochain à venir, vous avez 3 ans d'existence et vous avez été créé, cofondé avec un cabinet qui s'appelle BMA, qui est un cabinet qui date de je ne sais pas trop combien de temps, mais...
Une quarantaine d'années.
Ok, et donc sa croissance, elle est assez remarquable, en tout cas de 2018 à aujourd'hui, au passé de 17 millions à 55 millions, avec une croissance organique, et ça j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là. Plein de sujets aussi, en off, tu me parlais d'une satisfaction client de Geo, je l'appellerai comme ça, hein, de Geo Efficiency.
Oui, c'est son
la boîte dans le... Voilà, donc je vais appeler Geo, donc une satisfaction client de 100%, alors là, il faut me donner la recette, parce que c'est pas toujours comme ça. Donc avant de commencer cet épisode, je vais te poser cette question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter, parce que toi tu disais que t'es un matheux et un ingénieur, qu'est-ce que tu fais ici dans le monde du chiffre?
Alors, donc Jean-Marc Allouet, j'ai 55 ans. Oui, je suis plutôt ingénieur et matheux de formation. J'ai été un peu comme Obélix, baigné dans le monde du chiffre et de la comptabilité tout petit. Et donc, j'ai appliqué en fait ma façon de penser mathématique et informatique à ce monde du chiffre depuis pas mal d'années. J'ai travaillé dans différents cabinets, Arthur Andersen, Mazars, BDO. Donc voilà, effectivement, quand je dis que j'ai été baigné, j'ai été trempé dedans tout de suite, hein, un peu comme Obélix. Donc là, j'ai surtout appris la compta en apprenant tout ce qu'il fallait pas faire. Alors, faut pas me demander de vous tenir la compta, parce que là où je suis fort, c'est sur ce qu'il faut surtout pas faire.
Et si tu avais quelques petits éléments de contexte à nous donner sur ce qu'il faut surtout pas faire en compta, ce serait vraiment top, tu me tends une perche là.
Ce qu'il faut pas faire, c'est utiliser la compta pour frauder. Parce que nous, avec l'outil qu'on a développé, on va le voir. On va le voir très très vite. Et pour ça, ça peut être s'amuser sur des tiers fictifs, faire passer des schémas d'écriture un peu particuliers, considérer qu'en mettant moins d'informations, ça va moins se voir. Nous, en fait, c'est là qu'on va le plus le voir, puisqu'on fait un peu de l'analyse finalement comportementale sur les schémas comptables. Pour une petite anecdote, le truc le plus drôle que j'ai vu dans toutes les centaines et les centaines de comptabilités que j'ai pu auditer, c'était une comptabilité dont l'un des libellés d'écriture était ne pas communiquer en cas de contrôle fiscal.
C'est vraiment génial, quoi.
Ce qui a le mérite d'être clair. Et quand la question a été posée au comptable qui l'avait saisi, on dit bah oui, mais c'est ce que mon patron m'a dit. Donc si je le note pas là, je le note où ?
Magnifique. Alors.
Voilà. Donc aider comme ça, j'en ai pas mal. Non, finalement, la compta, c'est amusant. Hein.
Oui, c'est le reflet du business, hein, parce que c'est l'histoire financière qui est racontée au travers des chiffres. Donc c'est.
Et j'ai peut-être une autre anecdote. Ça, c'est amusant. C'est ce que j'appelle. On audite une comptabilité, puis d'un seul coup, on voit plein d'écritures bizarroïdes. Elles sont passées à l'envers. Elles sont toutes passées à l'envers à partir d'un moment. Donc, on va voir la personne qui dit non, mais moi, effectivement, bon, je suis pas comptable depuis longtemps. Avant, j'ai été conducteur de chantier. Et là, bah, je me suis blessé, donc on m'a mis à la compta. Et donc, oui, mais pourquoi vous avez changé ? Non, j'ai pas changé, etc. J'ai toujours fait comme on m'a dit, les débits côté porte et les crédits côté fenêtre. Et là, j'ai eu un blanc, je dis, vous avez changé de bureau en juin ? Et là, ça a été, oui, ah zut !
Ah ouais, ouais, d'accord.
C'est de l'autre côté du bureau. Et il avait compté, continué, côté porte et côté fenêtre. Donc, on a de tout. Hein.
Je refais un peu un retour en arrière un peu sur ton expérience. Donc, tu as bossé chez Mazar, tu as été aussi associé chez BDO. Fonder de pouvoir chez Mazar, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que tu pourrais être associé, mais tu ne l'es pas. Fonder de pouvoir, c'était senior manager, c'était la formulation qui était utilisée à l'époque.
Là, tu étais plutôt responsable de l'audit informatique. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Donc, ça, c'est 2003-2008, pour qu'on puisse un peu comprendre un peu l'évolution de cette industrie depuis tant d'années, tu vois.
Alors, ce que je fais, l'audit informatique, c'est deux choses. C'est l'audit de l'informatique et l'audit par l'informatique. L'audit de l'informatique, c'est assez simple, c'est comprendre comment les applications communiquent entre elles, indiquer au commissaire aux comptes que ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier, faire des contrôles complémentaires à tel et tel endroit, etc. Donc c'est auditer les moyens informatiques qui ont été mis en œuvre et les applications qui ont été mises en œuvre dans l'entreprise pour voir si son contrôle interne, il est bien embarqué dans tout ça. Ça, c'est l'audit de l'informatique. Ensuite, il y a l'audit par l'informatique. Et l'audit par l'informatique, c'est l'analyse de données. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en faisait pas tant que ça. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal à essayer de pousser l'idée, parce que au début, on me disait « ça marchera pas, bon, on va quand même essayer ». Ensuite, on m'a dit « bon, attends, si les autres le font pas, il y a une bonne raison ». Non, c'est pas sûr. Et puis ensuite, ça a été « oui, mais attends, maintenant, on trouve énormément de choses, qu'est-ce qu'on en fait ?» Parce que nous, on est là, par exemple, au commissariat aux comptes pour signer, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que ça va, enfin, le fait de voir beaucoup plus de choses, ça change notre façon de faire. Passer de l'échantillonnage d'une vingtaine de factures à « je vois tout ce qui va pas sur l'ensemble des factures », comment je mets ça dans mon programme de travail ? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai truc qui était compliqué dans tous les cabinets, c'est qu'il faut que le métier change. Souvent, on a des outils qui essaient de s'adapter au métier tel qu'il est comme ça depuis des années, mais là, maintenant, on a des technologies qui nécessitent à ce que les métiers, les philosophies, les pratiques changent. Et ça, c'est compliqué, parce que autant on peut changer une application, changer un programme, ça se permet rapidement, l'être humain, il a une certaine résistance au changement.
Donc, tu bosses chez Mazar. Ensuite, j'aimerais bien qu'on creuse un peu cette association chez BDO. J'ai reçu peut-être que tu le connais, hein, il s'appelle Grégoire Bisson, il était venu sur le podcast Les Geeks des Chiffres.
Oui, bah, tu as eu la chance de l'avoir, c'est quelqu'un de très bien.
Ah ouais, exactement, il était vraiment top, beaucoup d'humilité aussi. Et donc, oui. Du coup, ça a été quoi un peu, toi, ton histoire dans cette organisation ? Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller autre part ?
Non, il était assez simple parce que quand j'ai quitté Mazar, ça a été pour créer une toute petite boîte, on était deux, pour commencer à faire les prémices de ce qui a fait Geofficiency aujourd'hui. C'était le premier outil. À l'époque, on l'avait appelé Magnifier. Magnifier, ça veut dire loupe en anglais. Et l'un des anciens dirigeants d'Arthur Andersen, Michel Léger, qui me connaissait, un jour m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai montré. Et là, il a dit « non, mais attends, c'est pas possible. » Il dit « non, viens tout de suite. » Enfin, voilà. Et je lui dis « je veux bien, mais moi, je suis maintenant patron de ma boîte, etc. Donc, je viens. » Il me dit « oui, mais tu viens en tant qu'associé, évidemment. » Donc, en fait, on va dire que mon poste d'associé, je me le suis fait moi-même. Je n'ai pas été nommé. Et donc, j'ai rejoint effectivement BDO pendant pas mal d'années, où BDO a une grosse croissance. Et puis ensuite, ça a été la fin d'un cycle avec certaines priorités, avec un changement au niveau de la direction, etc. Ben pour bien fonctionner, il faut avoir des objectifs qui étaient un peu communs. Et il arrive un moment où on n'a pas eu les objectifs qui étaient communs. Et c'est à ce moment-là où j'ai croisé le chemin de BMA. Et étonnamment, je vais dire que ça a été quasiment le coup de foudre qui marche bien. Et là, je rencontrais des personnes avec qui effectivement les objectifs et les envies de prise de risque étaient les mêmes. Parce que BDO est un cabinet qui fonctionne très très bien, qui a une grosse croissance aussi sur certains axes. Il peut pas aller sur tous les sujets. Et moi, j'avais envie d'aller sur mon sujet à moi. Et donc, je me suis retrouvé à me rapprocher de personnes qui avaient envie d'aller aussi sur mon sujet à moi.
J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode.
C'est très clair, mais j'ai la sensation que cette idée de Géo, elle date depuis très longtemps, en fait, en réalité. Et comment ça se fait que, j'allais pas dire que ça a mis du temps à venir, tu vois, mais ça a été quoi un peu les grandes étapes de lancement? Peut-être que je me rends pas compte parce que le développement est très long. Ça a été quoi un peu le parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui, tu vois?
En fait, il y a différentes versions. La première que j'ai fait tout seul dans mon coin avec un collègue, ça a duré 2 ans. Ensuite, BDO nous a rachetés. On a continué à développer Magnifier, qui a fonctionné pour certaines entreprises, notamment le groupe L'Oréal l'utilisait dans pas mal de pays dans le monde. Mais on avait, on va dire, des freins en termes de puissance de frappe financière et puis des freins technologiques. Et en 2018, quand il y a eu cette décision de changer, j'ai dit « Ok, est-ce que vous pouvez m'enlever les freins financiers ?» Parce que ça va m'enlever les freins technologiques. Et là, vu ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, oui, ça a vraiment, vraiment, vraiment marché. Puisque en termes de technologie, on est capable de faire face à peu près à n'importe quelle situation. Ben, je pense qu'on va y revenir un peu plus précisément quand on va parler un petit peu de ce que peut faire Geofficiency. Mais on a... c'est un avion de chasse, quoi. Et effectivement, avant d'arriver à l'avion de chasse, on a commencé avec le truc avec les voiles en bois et puis des pédales. On pédale très, très fort pour que ça décolle. Bon, maintenant, on a un avion de chasse.
Alors, c'est quoi un peu la promesse de l'outil? Moi, je suis très tech. J'aime beaucoup les outils technologiques parce que je pense qu'ils peuvent vraiment à la fois faciliter la vie des professionnels du chiffre, mais aussi ils changent un peu leur métier et ils les aident à faire ce pourquoi ils sont réellement faits ou alors ce pourquoi ils ont rejoint un peu la filière, tu vois. Si tu pourrais nous parler un peu de Géo pour qu'on puisse bien comprendre et après que je puisse te poser des questions dessus.
Géo, si on veut, c'est un outil de radiologie comptable, pour faire simple. Alors, dans l'équipe, mon équipe préfère que je les appelle les NCIS de la compta. Ça leur plaît beaucoup. Mais c'est exactement ça. C'est un outil de radiologie comptable. Un outil de radiologie, ça remplace pas les médecins. Par contre, les médecins, ça leur permet de mettre beaucoup plus et beaucoup plus facilement en œuvre leurs compétences. Et donc, nous, les médecins qui utilisent Geofficiency, c'est direction comptable, direction financière, contrôle interne, audit interne, direction fiscale, les compliance officers, le M&A, tous ces gens-là qui peuvent avoir intérêt à faire parler de la donnée, sont capables de faire parler cette donnée à travers un outil, un département de radiologie unique et commun. Ça leur sert à quoi? Ça leur sert à vérifier beaucoup plus rapidement et facilement des sujets qu'ils ont envie de vérifier et que parfois ils ne vérifiaient pas parce que c'était trop coûteux. On aimerait bien savoir si, mais il faut qu'on passe par le département informatique pour avoir une extraction de données, puis on va faire une requête, et puis ça va prendre un peu de temps, puis ils ont pas le temps parce que c'est pas dans le truc, puis ça va nous donner des résultats, mais c'est des volumes monstrueux de résultats, et puis il nous faut du temps pour les exploiter. Donc finalement, tout ce qui était la manutention de données, prenez 80% du temps. Il restait à peine 20% du temps pour se servir de son cerveau. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé cette partie manutention de données. Vous voulez vérifier quelque chose? Ben, vérifiez-le. La façon dont on vend Geofficiency à nos clients, c'est exactement comme ça. On demande à nos clients de nous fournir des données de chez eux. On leur dit, nous, on va regarder avec Geofficiency. On vous promet qu'on regarde sans vous connaître pendant 1 heure. On utilise Geofficiency pendant 1 heure. et on indique les points d'attention, les choses qui nous attirent l'œil. Et après une heure, on fait la réunion de restitution avec vous, et puis on vous dit ce qui nous a attiré l'œil. Et Nicolas, je peux t'assurer qu'au bout d'un quart d'heure, c'est plus une réunion de présentation. On est en train de travailler ensemble, parce que le client nous dit « Ah oui, non, ça, oui, vous avez vu ça, bon, ça, c'est normal. » Enfin, c'est normal, sauf que là, est-ce qu'on pourrait le voir ? Ah, vous êtes en train de le regarder ? Ah oui, donc c'est ça, c'est… Ah oui, non, mais… Et puis là, ils se retournent l'un vers l'autre en disant « Tu vois, je te disais bien qu'il y avait un truc là-dessus qu'il fallait qu'on modifie, etc. » Et hop, on passe au sujet suivant. Et donc, effectivement, notre taux de succès lorsqu'on fait un POC, il est phénoménal. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas à vendre, c'est à faire des POC, parce que le reste vient naturellement. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que GeoPhysiancy, ça rend possible ce qui paraissait compliqué. Ça rend facile ce qui paraissait complexe.
Alors, est-ce que tu aurais un exemple à donner ? Par exemple, tu vois, là, tu fais un POC et quel élément peut faire ressortir l'outil ? Tu peux dire, ah, c'est vrai, là, je me suis planté, là. Quoi, par exemple ?
Alors, je vais te donner quelques exemples. Là, on parle beaucoup de contrôle. Donc, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'efficacité de la production comptable. On a l'un de nos clients qui, la première fois où il l'a utilisé, a dit « Non, non, mais moi, je veux regarder à quel endroit on perd du temps. » Et donc, en quelques minutes, et on parle d'une très grosse filiale, d'un très gros groupe français, en quelques minutes, la personne a regardé quels étaient les schémas comptables qui étaient les plus souvent saisis à la main et par qui. Et quand on voit qu'il y a une personne qui a saisi 998 fois le même schéma comptable dans l'année, peut-être qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais peut-être que si. En tout cas, ça se regarde. Dans les autres choses que j'ai pu identifier, oui, par exemple, un journal dont le nom était à définir. Donc, on a regardé. Et notre conclusion, ça a été de dire, ben oui, en fait, le nom, il est bon. Hein. C'est à définir. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dedans. On a eu aussi, je sais pas moi, des écritures dont les numéros, dont les dates de pièces dataient d'avant Jésus-Christ. Oui, on avait des dates négatives. Donc, comptablement, je sais pas si ça passe encore.
C'est Jules César qui a fait la note de frais.
Oui, oui, mais on n'a pas retrouvé la tablette d'argile. Elle a été mal stockée. Mais ce qu'on a eu aussi, c'est sur la TVA. TVA, sujet extrêmement complexe à auditer. Bon, bah, nous, on a un contrôle qui permet de sortir toutes les écritures d'achat sans TVA sur des comptes de charges sur lesquels habituellement dans cette entreprise, il y a de la TVA. Donc, il y a un peu d'intelligence artificielle aussi, puisqu'on apprend les pratiques normales pour l'entreprise. Pas que les pratiques standards. Et là, ben, potentiellement, il peut y avoir aussi un peu de TVA à récupérer. On peut avoir des tiers à risque, on peut avoir des... Enfin, si je te l'enverrai, on s'est amusé cette année à faire un petit jeu de cartes. Il y a beaucoup de cartes dans un jeu de cartes. Donc, les pics, c'est à quoi on peut utiliser, comment on peut utiliser GeoPhysiancy. Les carreaux, c'est la technologie. Les trèfles, c'est la fonctionnalité. Et puis, les cœurs, c'est... on est quand même vraiment sympa, voilà ce qui nous différencie. On a mis deux atouts qui sont le prix et le ROI. Non, on est surpris parce qu'on a des fois des utilisateurs qui trouvent des façons de l'utiliser auxquelles même nous, on n'avait pas pensé. Et donc, nous, on est des éponges dans ces cas-là.
Je sais pas, j'ai la sensation, j'avais invité Alban Clot, qui est le CEO, un des cofondateurs de Supervisor. J'ai la sensation que c'est un outil qui est à peu près ressemblant. Il doit y avoir certainement des différences. Hein. Mais j'ai l'impression que cet outil est trop facile à vendre, en fait, d'un point de vue entrepreneurial.
Alors, Alban, que je connais, est effectivement le patron de Supervisor, qui est notre principal concurrent, pour faire clair. Donc oui, les outils ont des différences. Mais ça, je ne vais pas aller... Ce serait pas honnête de
ah oui, non,
ouais. C'est pas du tout le sujet et c'est pas comme ça que je fonctionne. Et puis aux clients de faire des appels d'offres et puis de choisir l'outil qui est le meilleur pour eux. Facile à vendre, oui, à condition qu'il y ait une volonté dans l'entreprise. Si on est face à un directeur comptable qui dit non, circulez, il n'y a rien à voir dans ma compta, tout est bon. Ça peut être facile à vendre à l'audit interne. Si je m'exprime bien, c'est un cas qui est arrivé. Pourquoi c'est facile à vendre ? Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est facile à vendre ? C'est facile à vendre si derrière c'est facile à utiliser, facile à rentabiliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que il faut aussi tenir toutes les promesses. Parce que si on commence à faire des promesses et que derrière on les tient pas, même si on fait un bon travail, on va se focaliser sur les petits trucs qui n'ont pas été tenus. Je préfère être des fois un peu moins disant et faire des bonnes surprises. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Mais oui, c'est facile à vendre pour ceux qui ont envie d'en savoir plus.
J'aimerais bien un peu creuser cette sujet des due diligence. Je, je pense que le marché du M&A se développe de plus en plus. Et je trouve que c'est bien parce que j'ai même l'impression qu'il y a des entrepreneurs, ils savent même pas qu'ils peuvent vendre leur activité à un moment donné, tu vois. Pensent qu'ils le font et puis à un moment donné, ils doivent fermer la boîte. en quoi c'est quoi un peu l'usage de l'outil pour ceux qui font du M&A? Parce que tu me parlais de ça juste avant.
Je vais répondre en deux points à ta question. Le cabinet BMEA a une très grosse activité en M&A. Il est très réputé sur le sujet. On a une activité on est toujours très chargé, on est toujours en croissance. Et donc, quand cette équipe-là a vu l'arrivée, effectivement, au sein du cabinet d'un outil comme Geoficiency, ils en ont tout de suite vu l'intérêt. Pourquoi ? Du M&A, ou quand une entreprise veut effectivement croître, c'est un peu comme un club de foot qui voudrait rajouter un bon joueur dans son équipe. On préfère rajouter un joueur qui est complémentaire par rapport à ce qu'ils ont. Et si possible, s'il est bon, c'est pas mal. Et s'il n'a pas 49 ans, qu'il aurait donc du potentiel, etc., c'est mieux. Donc, ils vont envoyer quelqu'un pour aller vérifier s'il correspond bien à tous ces critères, s'il est bien complémentaire, s'il a... Tout ça, c'est la partie du M&A. Mais ce qu'ont les clubs de foot, avant de faire signer, il y a la visite médicale quand même. La visite médicale, on passe par des médecins. Ben, nous, on fait la visite médicale comptable. C'est-à-dire qu'on regarde si la compta elle est bien cohérente avec l'histoire qui a été racontée ou l'histoire qui a été perçue. On regarde s'il n'y a pas des loups à l'intérieur. Comme par exemple, nous on a vu des fois, d'un seul coup, tout ce qui était acheté en charge était d'un seul coup, à partir d'une certaine date, c'était acheté en immo. Ça ressemble à de l'atterrissage. Bon, tout ça on le voit, mais immédiatement. Et donc, quand on met ça dans la main de personnes, de professionnels du M&A, c'est un peu comme quand on donne une loupe à Sherlock Holmes. On n'a pas changé Sherlock Holmes, mais on a changé la qualité du travail qu'il est capable de faire et la rapidité avec laquelle il est capable de le faire. Donc voilà, si je peux donner une image, je donnerai celle-là.
Comment on fait pour s'implanter dans différents pays? Parce que ça, c'est ce que tu disais juste avant. Cet outil, vous l'avez implanté dans 62 pays, si ma mémoire est bonne par rapport à ce que tu m'avais dit avant. Concrètement, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez des commerciaux qui vont aller chercher les entreprises à l'étranger? Ou alors, est-ce que ce sont des filiales de groupes français qui sont implantés à l'étranger?
Alors, ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre, tu vois, je suis bien parti, moi.
J'ai pas dit implanter, j'ai dit utiliser.
Utiliser, ok.
Mais ta question est intéressante, je vais rebondir dessus. On travaille pour pas mal de grands comptes, je peux en nommer quelques-uns, j'ai pas le droit de tous les nommer, il y en a certains pour lesquels on n'a pas le droit de les nommer, donc je les nomme pas, mais que ce soit Saint-Gobain, Aéroport de Paris, Edenred, Roquette, Elior, voilà, on commence à travailler avec une partie de la RATP, une partie de la SNCF, enfin bon, on a avec Action Logement récemment. J'étais impressionné par l'importance de cette entreprise Action Logement où il y a plus de 3 millions de personnes qui sont logées dans des, donc voilà, des entreprises importantes. Et notamment, si on prend des groupes comme Saint-Gobain ou SPIE, ils ont des filiales à l'étranger. Ces filiales à l'étranger, des fois, ça a été des rachats, des fois, elles sont pas nécessairement sur le même ERP. Elles sont pas toujours sur le même plan comptable. Et donc, nous, on a la capacité avec Geoficiency à s'adapter à un plan comptable étranger en moins de 2 heures. Il n'y a que moins de 2 heures après, sur un plan comptable, y compris dans un pays anglo-saxon où il n'y a pas de plan comptable normé, tous les contrôles fonctionnent et sont comparables par rapport aux autres. Donc, on a été utilisé dans 62 pays. Maintenant, est-ce qu'on est implanté dans 62 pays? Non. Virgule. Pas encore. Donc très clairement, on travaille sur ce sujet-là parce qu'on a des sollicitations et on sait qu'on est capable de le faire. Mais maintenant, on a quelque chose à montrer et à démontrer.
C'est quoi un peu votre vision pour l'avenir avec toi en tant qu'entrepreneur et même sur cette vision du marché? Parce qu'en fait, cet outil, ouais, tu peux le mettre à disposition même de l'État en fait. Hein. Il peut l'utiliser pour faire des contrôles fiscaux, etc. J'imagine.
Alors, si je me trompe pas, tu avais posé la même question à Alban.
Ah, c'est possible. C'est possible. Peut-être.
Oui, on pourrait. Bon, l'État dispose déjà d'outils pour le faire. Notamment, de mémoire, ils ont beaucoup utilisé un outil qui s'appelle ACL, qui leur permet de développer leur contrôle par eux-mêmes. Ils utilisent aussi, pour tout ce qui est contrôle fiscaux, un outil qu'ils ont développé en interne qui s'appelle Alto 2. qui leur permet de faire certains contrôles dans la limite de ce qu'ils ont le droit de faire. Oui, on pourrait. Maintenant, je pense que l'outil tel qu'on l'a développé va au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre de faire. Et donc, ça peut même être un petit peu embêtant, parce que ça va au-delà de ce que la réglementation leur permet de faire. Donc, c'est pour ça que nous, on se concentre plutôt pour le donner à disposition des entreprises qui doivent répondre aux contraintes réglementaires, contrôles fiscaux, délais de paiement, sapin 2, etc. Donc ça, c'est des contraintes. Mais ils ont aussi d'autres besoins, c'est de faire en sorte que leur contrôle interne à eux, leur gestion des risques à eux, elle soit bien gérée. Ou le fait de réagir aussi à des situations de crise. Bien souvent, l'amélioration de la gestion du risque, elle passe souvent par des contraintes externes, par des réglementations externes, on vous oblige à. Je prends un exemple. Si le contrat d'assurance n'était pas obligatoire pour toutes les voitures, est-ce que tout le monde en aurait un ? Non. Clairement, non. Là, effectivement, si on regarde quelque chose comme Sapin 2, ça a été une contrainte, ça a été forcé. Ça permet de déclencher le fait que, effectivement, on va commencer à mettre ça en place parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est utile et que ça peut être rentable si c'est bien fait. Et donc, un outil comme Geofficiency, il est là pour aider l'entreprise en situation normale, en situation exceptionnelle, comme une croissance, un changement de RP ou un changement d'organisation, ce genre de choses, ou en gestion de crise. Mais c'est comme l'outil de radiologie. Hein. On va faire son bilan de santé, on va voir si le traitement va bien ou on est urgentiste. C'est la même chose.
Du coup, c'est quoi un peu la vision que vous portez avec ce projet-là ?
Être utile. On pense que la clé, c'est d'être utile. Pour être utile, il faut qu'on ait un outil qui soit factuel. C'est-à-dire que les résultats qui ressortent de l'outil n'amènent pas à discussion, n'amènent pas à interprétation ou ne nécessitent pas un travail complémentaire pour pouvoir être interprété. Donc, il faut que ce soit factuel et immédiatement utilisable, facile, pratique. Il faut que l'outil permette de vérifier certains contrôles, certaines choses qu'on a envie de voir, de permettre aux gens de vérifier ce qu'ils ont envie de vérifier, virgule, mais aussi d'identifier ce à quoi ils n'auraient pas pensé. Donner une espèce de sixième sens comptable. Donner des points d'alerte. Aller plus loin que simplement contrôler ce qu'on veut contrôler. Pour ça, il faut qu'il y ait de la R&D, il faut qu'il y ait du métier, il faut qu'il y ait de la technologie pour faire face à toutes les volumétries. Là, on travaille sur des projets, on a différents projets sur de l'intelligence artificielle pour rajouter encore plus d'intelligence artificielle dedans, mais de la vraie, parce que je me méfie toujours du terme intelligence artificielle parce que il y a quand même des fois où on met deux formules Excel dans deux cellules Excel et puis on appelle ça intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que le marketing a dit que c'était indispensable. Non, on en met vraiment, mais à condition que ça marche vraiment. Donc voilà, nous le projet, c'est tout simple, c'est pour être réclamé, il faut être utilisé. Pour être utilisé, il faut être utile. Et pour être utile, il faut que ce soit facile à utiliser, efficace et d'un tarif bien inférieur au gain que ça apporte. À partir de là,
la promesse, elle est bien tenue. J'aimerais savoir de quoi est composée l'équipe. Quelles sont les compétences que vous avez en interne ? Comment on construit cet outil-là ? Là, j'ai envie d'avoir un peu ma culture perso, parce que j'imagine qu'il faut une culture technique très élaborée. Il faut être aussi très ingénieux, parce que c'est pas parce qu'on a fait du commercial au compte dans notre vie et un peu d'audit qu'on est super calé sur tous les sujets qu'on peut rencontrer. Comment vous avez nourri l'outil pour qu'il puisse être aussi performant que tu le dis, et donc de quoi est composée l'équipe ?
Alors, c'est une excellente question. Il est impossible de concevoir un outil comme ça tout seul.
J'imagine, ouais.
C'est impossible. Il faut plusieurs cerveaux. Il faut des cerveaux différents. Donc, les trois composantes qui sont nécessaires vraiment au lancement, à la conception, c'est la composante métier, expertise métier, la composante technologique, et puis la composante visionnaire. J'y reviendrai à la fin. La composante métier, on l'a trouvée au sein du cabinet BMA. Puisqu'ils ont tous les départements qu'il faut pour ça, que ça soit la comptabilité, enfin l'expertise comptable, l'audit. Ils ont aussi un département sur tout ce qui est contrôle interne et gestion des risques, qui est un sujet qui est extrêmement important et département qui vient de sortir une étude assez intéressante que je pourrais te partager sur la maturité le chemin que doivent suivre les ETI et PME pour se doter de bonne gestion des risques, alors que elles n'ont pas nécessairement les moyens que les grands groupes ont sur ces sujets-là. Donc ça, c'est juste une illustration. Donc tous ces métiers-là, et le M&A bien évidemment, on avait les experts. Nous, on avait les données. Et donc, ce qu'il a fallu, c'est croiser en disant, ben voilà, regardez, on a cette matière première de données, on peut faire des choses, on a commencé à montrer des choses, et là, en réaction, ils nous ont dit, ah bah oui, ça c'est super, ça peut nous être utile, mais ça pourrait nous être encore plus utile si, est-ce qu'on pourrait faire ceci? Est-ce qu'on pourrait faire cela? Ah non, ce contrôle-là, il faut le faire de telle manière. Et là, on a vraiment eu une infusion d'expertise métier dedans. C'est pas que de la statistique. Il y a de l'intelligence comptable dedans. Aller, par exemple, faire un contrôle sur « j'aimerais voir toutes les écritures qui ont été passées manuellement sur des comptes qui sont majoritairement alimentés par des traitements batch », c'est pas par hasard qu'on le fait. Parce que dans ce monde d'automatisation, s'il y en a qui sont faites comme ça à la main, c'est peut-être que le batch ne fonctionne pas très bien. Donc, il y a une logique qui est derrière. Donc, il y a vraiment cette composante métier et le fait d'avoir pu être nourri, aidé, supporté par notre maison mère BMA, et quelque chose qui permet de donner beaucoup de corps à Geofficiency. Maintenant, puisqu'on a parlé du corps, si on parle du squelette, il y a un squelette technologique. Et là, effectivement, il faut avoir des compétences technologiques pour pouvoir traiter des très gros volumes de données rapidement. Alors, l'outil fonctionne en mode SaaS. Comme je l'ai dit, on n'a pas de limite de volumétrie. Le client pour lequel on traite le plus grand nombre d'écritures comptables, c'est Saint-Gobain. On doit être à 1,5 milliard d'écritures comptables qui sont analysées dans une trentaine de pays. Donc oui, il y a une branche technologique importante. On a fait une première version de Geofficiency qui fonctionnait, mais qui ne nous donnait pas de garantie sur les évolutions qu'on voulait faire par la suite. Donc il fallait qu'on passe sur autre chose. Donc en 2022, on est passé sur autre chose. On a revu en fait toute la techno. On a changé toutes les briques techno pour passer sur quelque chose qui nous permet de voir l'avenir assez sereinement parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et j'ai dit qu'il y avait une troisième branche, c'était la partie visionnaire. Moi, j'en fais partie, je suis pas le seul. Il n'y a aucun orgueil dans ce que je dis. Mais si on est trop concentré sur le métier, si on est trop concentré sur la technique, on va développer ce qu'on sait faire. Et donc, il faut absolument bouger les lignes. Non, on peut faire autrement. On peut faire autre chose. Il y a moyen de faire autre chose. Moi, je joue pas mal en nombre d'heures. Je joue pas mal aux échecs. L'un des grands joueurs qui m'expliquait ça me dit, bon, écoute, quand t'as trouvé un bon coup, c'est bien. Maintenant, tu peux chercher celui qui est meilleur. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que dans le métier de tous les jours, quand on est contraint par tout ce qu'on fait, quand on a trouvé un bon coup, on est content, on va passer à l'autre. Et ça nous empêche de trouver le meilleur. Et c'est ça que j'appelle la partie visionnaire. On est quelques-uns au sein du cabinet à faire ça. C'est de dire, OK, ça marche. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et là où ça va loin, c'est que maintenant, ce sont nos clients qui participent à ça. On a monté le club Geofficiency, dans lequel nos clients participent directement. Et on est allé au bout du bout, puisque c'est eux qui votent pour les futures briques de la feuille de route de Geofficiency, que ce soit en termes de fonctionnalité ou en termes de capacité technologique. C'est nos clients. Donc, ça devient en fait leur outil. Et ça, il faut avoir les reins solides pour le faire, mais c'est passionnant.
Du coup, j'ai le souvenir de cet échange avec Alban Clos qui avait, j'ai l'impression qu'il a passé, ils ont passé 8 ans pour développer cet outil-là. Vous, j'ai l'impression que ça va plus vite. Je ne sais pas si je me trompe, mais comment vous avez fait pour faire tester l'outil? Sur quel client? Comment ça a marché au début, tu vois? Parce qu'on passe d'une feuille où, l'outil, c'est ça la promesse, mais il faut qu'on puisse analyser les données. Et puis aussi, il faut que les données analysées soient justes. Et donc, ça a été quoi un peu les phases de lancement?
Dire que ça va plus vite, je dirais pas ça. Puisque Alban, à mon avis, ils ont commencé à lancer leur projet en 2008, puisque c'est là où je l'ai croisé pour la première fois. Et moi, je faisais d'ailleurs une conférence sur ce sujet-là. Donc, plus vite, non. Différemment, oui, c'est possible, parce que je pense, je peux pas difficilement parler d'eux, mais je pense qu'ils ont, ils ont développé l'outil, ils ont fait progresser, etc. Alors que nous, ça a été... On a développé une première version, on a vu ce qui fonctionnait, on a vu ce qui fonctionnait pas, on a fait table rase, on est reparti sur une nouvelle techno, on a beaucoup investi sur la techno ces dernières années, mais intellectuellement, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet. Très longtemps. Sur la partie technologique, on l'a fait pas de façon continue, mais on l'a fait, on va dire, un peu comme on par des sprints. Alors, pas des sprints de 2 semaines, hein. Alors, on va dire que c'est des sprints de 2 ans, mais c'est exactement ça. Là, aujourd'hui, donc on est en full SaaS. Ouais, je t'avais dit que je faisais de la course à pied, un sprint de 2 ans, je peux pas quand même. On est en full SaaS et là, on commence à avoir des sollicitations, y compris de nos partenaires technologiques, notre hébergeur, notre infogérant, pour faire des témoignages avec nous, parce que ce qu'on a développé, ce qu'on a inventé, ils n'avaient pas vu avant. Et quand je parle de nos partenaires technologiques, on est hébergé chez Microsoft Azure, c'est toujours agréable d'avoir des appels de leur part en disant « Attendez, là, ce que vous avez fait, ça nous intéresse. » Donc, je pense que c'est différent. Je pense que nos modèles sont différents. Je pense que notre technologie est différente. Et je pense que c'est aux clients de choisir ce qui leur convient le mieux. Je suis pas certain que notre outil soit celui qui convienne le mieux à tout le monde. Et je pense que par contre, c'est bien qu'il y ait deux outils comme ça, français. On a de la chance. Parce qu'on peut avoir le choix. Et on n'a pas vu ça à l'étranger. Hein. C'est plutôt bien de pouvoir choisir. Si je le fais de façon un peu amicale et en taquinerie, je pense que c'est bien qu'on soit arrivé sur le marché pour nos amis, parce que ça va créer plus d'émulation.
Ouais, bah alors, moi, tu me dis ça à moi, j'adore. Hein. Moi, je trouve ça trop bien, parce que je trouve que quand il y a plus d'acteurs sur le marché, ça force aussi chaque individu à se rehausser et à rehausser un peu son niveau. Je faisais justement un épisode avec David Imbert, qui est le CEO de Hendrix, qui est un grand cabinet en France. Et donc, du coup, je posais la question, comment tu vois un acteur comme Indy arriver sur le marché dans l'expertise comptable? En gros, ça te met un coup de pied au derrière, quoi. Et donc, tu travailles plus pour apporter plus de valeur aux clients, point à la ligne. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait cette compétition quand elle est saine et bon enfant, bien sûr.
Si je peux rebondir là-dessus, bon, je préfère qu'on soit vu comme un coup de main supplémentaire à nos clients que comme un coup de pied au derrière à nos concurrents. Mais c'est les deux. Effectivement, c'est les deux.
C'est quoi un peu ton rôle à toi aujourd'hui? À quoi ressemble ton quotidien? C'est quoi ta vie d'entrepreneur dans la gestion de ce projet?
Alors déjà, le projet, je ne le gère pas tout seul. On le co-gère. À deux avec le président de BMA, tout simplement parce que on est très complémentaires. Voilà, est-ce qu'on a réussi à faire à deux? Il ne l'aurait pas fait tout seul, je ne l'aurais pas fait. Donc on gère ça à deux. Ensuite, moi, mon quotidien, c'est de faire en sorte d'avoir une équipe passionnée par ce qu'elle fait. C'est la clé. S'ils sont passionnés, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. S'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est des clients qui auront le meilleur de ce qu'on peut faire. Ils auront la meilleure version de ce qu'on peut être. À partir de là, ça nous rend très concurrentiel. Donc, on a une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de personnes. Ils sont pas tous logés au même endroit. On a une personne à côté de chez toi sur Nice, Marie-Lise. Si un jour tu veux faire un podcast sur comment une informaticienne travaille sur ce domaine-là en étant à Nice, à travailler pour, ça peut le faire. Je lui ai pas dit avant, comme ça là je viens de la piéger. On a une personne à Clermont-Ferrand, on a une personne à Limoges, on a quelqu'un à Brest, on a, enfin voilà, à différents endroits. Mais on a une équipe qui est extrêmement soudée. On a pas de turnover. Enfin, il y a pas de voilà, il y a eu un départ, une fois, mais c'est en toute amitié avec quelqu'un qui avait une passion à assouvir, etc. Donc, on est resté en contact. Donc, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que l'équipe soit passionnée et soudée. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ensuite, en tant que responsable de cette structure, vérifier que les clients sont toujours totalement satisfaits. Vérifier qu'on tient toutes nos promesses. Les écouter. Voir si ils nous demandent des choses qu'on n'est pas capable de faire et regarder si c'est possible ou pas de le faire. Et donc, arriver encore avec l'équipe, avec les différents visionnaires, que ce soit Caroline, qui est la patronne du département gestion des risques pour BMA, ou Erwan, qui est le président de BMA, ou moi, à faire bouger les lignes, à dire, voilà, on m'a demandé ça, je vois pas si on peut le faire ou pas, est-ce qu'on peut quand même regarder? Et ça nous a ouvert pas mal de portes. Donc, c'est continuer à faire en sorte qu'on soit toujours en déséquilibre avant. Pas à se casser la figure, mais en déséquilibre avant pour se retourner vers les équipes métiers ou vers les équipes techniques en disant, attendez, voilà de quoi on a rêvé. Et en général, ce qu'ils me disent, ouais, attendez, vous rêvez fort. Hein. Et puis, au bout d'un moment, il y avait en disant, bon, vous rêvez fort, mais on a réfléchi, il y a peut-être moyen de faire encore mieux. Moi, mon boulot, c'est que ça fonctionne comme ça. Et que même les clients y participent.
Tu mentionnes deux éléments dans ce que tu racontes. Tu parles d'un turnover très limité. Je sais que la rétention des talents dans toutes les entreprises, et je ne parle pas que dans les entreprises ou les cabinets, c'est difficile. C'est quoi un peu la sauce secrète, justement, pour faire que les gens y restent impliqués? J'imagine bien que le projet, il est intéressant pour eux, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir fidéliser les gens qui travaillent dans un projet depuis tant d'années.
Je ne vais pas faire comme un ancien président américain, mais je vais m'en inspirer un peu, mais à mon humble niveau. Il ne faut pas se demander simplement ce que les gens peuvent faire pour nous. Il faut aussi se demander ce qu'on peut faire pour les gens qui travaillent dans l'équipe. C'est aussi simple que ça. Leur rendre le boulot intéressant. Moi, je sais que j'ai une anecdote. J'ai une des personnes qui est arrivée chez nous. Et puis le jour où il est arrivé, il a eu un accident de trottinette la veille. Il est arrivé, mais alors bien abîmé quand même. Bien abîmé, les lèvres fendues, etc. Bon, je le connaissais déjà avant. Je me dis, mais tu restes pas ici. Tu t'es pas en état. De toute façon, t'es pas présentable. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps, et là, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Bon, il était chez mon dentiste une heure après. Il n'arrivait pas à avoir de rendez-vous de. Donc, je dis pas que c'est l'essentiel de mon travail. Mais si les gens sont heureux de venir au boulot, s'ils sont heureux de voir les réactions des clients, s'ils ont des parce que les remerciements des clients, c'est aussi ça qui fait bouger. Je vais donner une autre anecdote. Quand on a voulu recruter notre directrice commerciale, Clélia, on a pris un chasseur de tête, et puis le chasseur de tête l'a appelé. Elle était un petit peu dans le domaine, et puis elle a dit ben oui, je connais quelques sociétés qui sont là-dedans, mais j'ai fait ce qu'elle appelle ses battle cards, c'est-à-dire les, je connaissais pas moi à l'époque le truc. Je faisais du commercial à la Monsieur Jourdain, quoi. Donc, j'ai fait mes battle cards. Et puis, alors, dans les boîtes, il y en a certaines, non, j'ai pas envie. Il y en a une, j'aimerais bien, mais ils ont pas de département commercial. Mais vraiment, j'aimerais bien, puisqu'ils ont l'air d'avoir un bon produit. C'est Geofficiency. Et là, le chasseur lui dit, le tête lui dit, oui, vous avez raison. Ils ont pas de département commercial. En fait, c'est pour le monter. La négociation était assez rapide. Donc là, ça veut dire que la mayonnaise avait pris avant même qu'on travaille ensemble. Bon, et depuis le département commercial, maintenant, c'est 5 personnes. Si les gens sont passionnés, s'ils sont reconnus, s'ils sont écoutés, pourquoi ils prendraient le risque d'aller gagner 5% de plus ailleurs? Peut-être, la première année. Et encore, on ne sait pas comment ça va évoluer. Il n'y a aucun intérêt. En plus, la boîte va bien. Elle est en pleine croissance. Il y a plein d'opportunités. C'est pas très compliqué.
Oui. Après, je pense que l'empathie aussi est un super pouvoir et un joker très important dans l'histoire de l'humanité, parce que si on arrive un peu à se mettre à la place des autres et un peu à comprendre leurs besoins et le résoudre aussi parfois à notre humble mesure, ça peut aussi fonctionner, tu vois. Ce que tu dis là, bien sûr que c'est évident, c'est carrément évident, mais je pense pas que ce soit évident non plus pour tout le monde, tu vois, dans les faits.
Pour moi, c'est évident. mais je vais aller même plus loin que ce que tu viens de dire. C'est effectivement, oui, il y a de l'empathie. Bon, il faut que l'empathie soit quand même cadrée, parce qu'il y a quand même des objectifs pour que la boîte fonctionne, etc. Donc, il faut qu'il y ait de l'empathie et il faut qu'il y ait de la franchise. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le dire. Il faut le dire respectueusement, mais il faut le dire. Mais cette empathie, elle est bien pour l'équipe. Mais elle est bien pour, on va dire, l'équipe au sens encore plus large, c'est-à-dire nos clients. C'est la même. Quand on va voir des clients et qu'on les écoute et qu'on leur dit, écoutez là, ce que vous nous demandez, ça, on ne peut pas le faire, mais je comprends. Voilà peut-être comment vous pourriez essayer de le faire, etc. Mais vous ne me demandez rien là-dessus. Non, mais on a une idée, je peux peut-être vous mettre en relation avec tel cabinet parce qu'eux, ils sont meilleurs que nous là-dessus. Et je pense que là, vous voyez, pour la séparation des tâches dans les SAP, on en connaît qui sont très bien. Je ne vais pas essayer de vous vendre autre chose, mais on en connaît qui sont très bien. Les clients, je vais pas dire que ça devient des amis, parce que il faut rester dans un certain cadre. Mais oui, il y a des relations qui sont. Il suffit d'aller sur notre site internet et d'aller voir les témoignages des clients. Ils font aussi preuve d'empathie vis-à-vis de nous, parce que l'empathie est contagieuse.
Du coup, alors c'est quoi un peu les recettes pour avoir un taux de satisfaction de 100%? Tu vois, c'est 5 sur 5, quoi.
C'est simple. Il faut poser la question qu'à ceux qui sont contents. Non, je blague.
Tu as raison, il n'y a pas de problème.
Ça c'est le côté mathématicien qui est revenu d'un seul coup. Si tu veux changer les statistiques, change la population. Non, on a été surpris. On a envoyé le questionnaire à l'ensemble de nos clients. On en a 80% qui ont répondu. Et les notes allaient de pas satisfait, moyennement satisfait, assez satisfait, satisfait, très satisfait, au-delà des attentes. Sur 6 ou 7 critères. on n'a pas eu une seule note en dessous de satisfait sur ensemble des critères. Alors maintenant, le secret, c'est quoi ? Ne jamais promettre plus que ce qu'on est capable de faire. Ça peut être une tendance pour essayer de vendre ou de faire passer le truc et puis on va promettre plus. Ça va créer de la déception. Et après, on se retrouve avec un client qui a peut-être quelque chose qui lui est utile, mais il est déçu parce qu'il s'attendait à mieux. Donc, en promettre tout ce qu'on peut faire, tenir tout ce qu'on peut faire, ne pas promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir. C'est assez simple, en fait.
Ouais, j'ai entendu un jour une phrase, je sais plus c'est qui disait ça, mais c'est promettre moins, délivrer plus, quoi.
C'est ça.
Et donc, ça fait toujours un bon effet, quoi. Tu fais un petit effet waouh, parce que forcément, t'as promis 5 et toi, t'as délivré 7, quoi. Donc ça, c'est top.
Ben, on a beaucoup de notes qui sont au-delà des attentes. Moi, je sais beaucoup mieux gérer les bonnes surprises que les mauvaises.
Tu m'étonnes. Dans ton histoire de vie, mon cher Jean-Marc, est-ce que t'as eu des moments un peu difficiles? Et comment tu as réussi un peu à les surmonter? Parce que j'aime bien aussi apporter toujours cette nuance un peu de gris dans une histoire d'un être humain. C'est pas toujours génial. Et donc, il y a aussi la vraie vie. Tu as une chose à nous partager.
C'est compliqué d'avoir raison trop tôt. C'est très compliqué parce qu'on ne maîtrise pas le planning. Quand en 2008, j'ai eu cette idée-là et que j'ai fait face aux réflexions dont j'ai parlé, ça ne marchera pas. Si les autres ne le font pas, il y a une bonne raison. Oui, mais attends, si j'utilise ton outil, comment je vais faire pour signer correctement? Parce que je vois des trucs que je suis pas censé voir. Mais tu vois bien qu'on est déjà occupé, on a déjà plein de boulot. C'est pas quand on a le frigo plein qu'on va faire les courses. Alors ça, je sais que tu postes souvent là-dessus, notamment sur tout le métier de l'expertise comptable. Et cette phrase-là qui m'avait choqué de personnes qui étaient effectivement, ils avaient beaucoup de boulot, mais c'est pas quand on a le frigo plein qu'on va faire des courses. Grosso modo, regarde, déjà, je suis déjà occupé avec tout ce que je fais. Pourquoi je m'ouvrirais à autre chose? Donc ça, en termes d'histoire de vie, c'est compliqué à vivre parce qu'il y a un moment où on se demande si on n'a pas tort, en fait. Et c'est pour ça que le fait d'avoir rencontré BMA au bon moment, et comme tu l'as compris, le projet a repris un nouveau souffle, a eu enfin les moyens de ses ambitions. Et moi, qui n'étais pas en super forme physique à ce moment-là, au moment où je me suis posé dans un bureau pendant un mois et demi pour faire un peu le modèle conceptuel de données, l'architecture de l'outil qui pourrait évoluer dans tous les sens, j'ai essayé de me reprendre en main moi aussi physiquement. Donc j'ai perdu énormément de poids, j'ai enlevé le corset qui me maintenait le dos, j'ai commencé à pouvoir marcher plus d'un kilomètre. Maintenant on a Geoficiency qui marche très très bien. Moi aussi je marche très bien. Donc, par contre, je suis pas comme Geoficiency. Je peux pas m'avaler n'importe quelle volumétrie de kilomètres. Donc voilà, mon objectif, c'est de faire une course de 175 kilomètres, ce qui est déjà pas mal, hein.
Ah, tu m'étonnes, c'est clair. Attends.
Mais ce qui est déjà pas mal, mais je peux pas me remplacer toutes les briques technologiques qui sont à l'intérieur de moi, quoi. Alors que Geoficiency, on peut le faire aller beaucoup plus loin. Donc c'est assez amusant de voir comment des projets professionnels peuvent avoir un impact aussi sur sa vie et sur sa santé personnelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu as vécu aussi.
C'est très intéressant ce que tu dis. J'aime bien cette analogie. Enfin, j'aime bien ce que tu racontes. Ça résonne en fait aussi chez moi quand tu dis c'est compliqué d'avoir raison un peu trop tôt. Des fois, un peu le time to market, il n'est pas bon du tout, quoi. Donc, toi, tu es là, mais pourquoi ils ne voient pas, quoi? Mais pour quelle raison ne voient-ils pas ce qui se passe? Et toi, tu es là tout seul, en fait. Donc, tu cries, mais tout seul. Et personne ne t'écoute.
Mais c'est ça, mais les choses peuvent évoluer. Le problème, c'est que tu viens de l'expliquer très clairement. Tu cries tout seul. En fait, les personnes que tu as en face de toi, elles ont raison. De leur point de vue, ils sont à un autre endroit sur la carte. Et de leur point de vue, ils ont leur raison. Et tu serais à leur place, tu pourrais peut-être même penser pareil. Mais il faut un moment que la géométrie, la géographie, les positions changent. L'apparition du fichier des écritures comptables en 2014, où l'administration fiscale a dit « Tiens, ben moi, l'analyse de données comptables automatisées, etc., ben moi, je vais en faire. » Ah ben, d'un seul coup, j'avais plus tort, là. Voilà, c'est évident. Par contre, quand ils l'ont fait, ben, ça faisait un moment que je travaillais déjà sur le sujet, donc on n'était pas en retard.
Carrément. C'est un bon exemple.
Il y a deux phrases qui me viennent en tête là-dessus. Une que j'utilise de temps en temps quand je sens que j'ai pas la majorité, ou quand je sens que je suis vraiment tout seul, quoi, avec mon équipe, parce qu'on discute ensemble et puis ils savent que des fois je peux avoir des idées qui sont compliquées à réaliser. Et il y a des fois je leur dis, vous savez, c'est pas parce que je suis le seul à avoir raison que j'ai tort. Elle est pas mal. Des fois, j'ai tort. Mais ça les fait marrer. Et puis, l'autre phrase, qui est, alors, c'est un humoriste d'un autre temps, hein, Francis Blanche, qui disait « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. »
C'est clair.
Et celle-là, bon, bah, on la vit en fait en ce moment dans nos métiers du chiffre. Et toutes les missions que tu fais tournent autour de ça.
D'ailleurs, je voudrais quand même aussi alerter ceux qui nous écoutent jusqu'à tout de suite. Souvent, moi, je parle un peu du métier, dans l'expertise comptable, du rôle un peu des compétences des collaborateurs. En fait, en réalité, j'ai pas trop peur de dire que le métier de comptable, il faut plus y aller, faut plus le faire si on le pense comme il est aujourd'hui. Et je vois que quand je dis ça, je vois quand je dis que les compétences, il faut plus trop se concentrer sur la compta, mais il faut plus aller vers la finance, le droit, le contrôle de gestion. Quand je dis ça, je te garantis que les générations actuelles, les générations un peu futures, celles qui s'immiscent dans la comptabilité, dans la gestion, ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas d'accord. C'est que ça ne résonne pas du tout chez eux parce que le marché actuel leur prouve complètement le contraire. On les recrute, on a besoin d'eux. Mais demain, ça va faire flipper, quoi.
Ouais, ce que tu dis, ça résonne aussi vis-à-vis de GeoEfficiency. Pourquoi ? Le GeoEfficiency, c'est un outil d'aide à la décision. À la décision. Pour décider, il faut avoir un peu d'heure de vol.
Là, c'est clair.
Il faut avoir un peu de hauteur de vue. C'est pas d'aide à la production. Des outils d'aide à la production, automatisés avec de l'intelligence artificielle, qui vont faire des... Finalement, intelligence artificielle, ça fait... de façon récurrente et rapide des choses relativement bêtes mais avec une puissance de calcul phénoménale. Par contre, interpréter un résultat, il faut avoir une expertise.
Ah mais c'est clair, hein. Là il faut avoir de la vraie culture, hein. C'est pas avoir une culture de réalisation et de production, quoi. C'est très général. Voilà,
donc je reprends mon exemple de la médecine. C'est vrai qu'il faut mieux être médecin qu'infirmier. Et d'ailleurs c'est les médecins qui utilisent les outils de radiologie. Donc moi je le vois avec nos clients. Alors ce qu'on fait aussi de temps en temps, quand ils n'ont pas la ressource nécessaire, c'est qu'on leur met à disposition GeoEfficiency, ils l'utilisent par eux-mêmes, hein, mais ils nous disent voilà, on n'a pas le temps de regarder. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un expert qui va nous simplifier le travail? On a fait ça pour Aéroport de Paris, on a fait un podcast il n'y a pas très longtemps là-dessus. Ou ponctuellement, ben on est allé apporter une expertise complémentaire, mais pour quelle raison? Pas pour trouver des choses. Pour transférer l'expertise vers des personnes de chez eux de façon à ce qu'ils soient en capacité de le faire par eux-mêmes. Mais c'est de l'expertise. Donc les outils qui apparaissent aujourd'hui obligent, nécessitent à avoir un niveau d'expertise beaucoup plus élevé. Parce que les tâches simples, routinières, vont être automatisées.
Ouais, bah c'est clair. Merci mon cher Jean-Marc, en tout cas pour toutes ces précisions. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Je suis aussi désolé de ne pas avoir été au meilleur de moi-même pour t'accueillir dans cet épisode. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vais te poser une dernière question, Jean-Marc. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres ?
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne vends pas aux autres ce que tu ne serais pas capable d'acheter.
Parfait, trop bien. Si les gens veulent te retrouver, mon cher Jean-Marc, je les envoie sur ton profil LinkedIn. Je mets le site internet directement en description de cet épisode. Et puis, ils pourront te poser des questions et puis aller découvrir un peu vos travaux et ce que vous proposez. Ça vous va ?
Oui, ou même poser des questions à nos clients parce que c'est ce qu'on fait, nous. Moi, effectivement, je peux donner l'impression d'être jugé parti. Ben voilà, ce qu'on fait au sein du Club Géo, c'est facile aussi d'interroger nos clients. Il n'y a pas de meilleur témoin que les gens qui l'utilisent vraiment.
Super. Bah merci en tout cas. Merci d'avoir fait le j'allais dire le chemin, mais non, pas le chemin. Le chemin, c'était là. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et de nous avoir accordé ton temps pour apporter toutes ces précisions sur ton expérience et ton expertise. Merci pour tout, Jean-Marc.
À bientôt. Bon établissement. À bientôt. Salut.
Merci à tous d'avoir participé à cet épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous avez pris un aussi grand plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas les 5 étoiles partout. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions d'UNO qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.